Soyez alerte, la chronique que voici pourrait vous déranger. Tel un moustique qui pique. La chronique du moustique avec le sismologue à la retraite de l'UQAC, Reynald Duberger.
Non, mais molestez-moi, ce qui tombe.
Puis du côté de nos voisins d'Europe, nos cousins, nos Français, ça brasse. Et on le voit avec ces manifestations sur les autoroutes où les tracteurs, les agriculteurs sont sortis.
On prit d'assaut les villes.
On prit d'assaut, oui, effectivement. Et on va en parler avec Reynald Duberger ce matin. Reynald, bienvenue.
Bonjour.
Tu es l'agriculture pour sauver le climat?
Mais ouais. Oui. J'ai intitulé ma chronique ainsi, mais ça va même au-delà du climat. On parle en général de l'écologisme, c'est-à-dire la religion écologique, la doctrine qui fait qu'on place l'environnement avant l'être humain. Ça va être la quintessence de mon propos ce matin. Il y a deux souverainetés importantes qui, à mon avis, garantissent la stabilité économique et sociale d'une communauté, d'un État, d'un pays. C'est la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire. Alors, ces deux souverainetés-là sont menacées présentement par ce que j'appelle l'écologisme et plus particulièrement par l'hystérie climatique. Et cette hystérie climatique-là, elle est en partie responsable de l'infortune à l'heure actuelle puis la colère des agriculteurs français. Il y a un rapprochement assez intéressant entre la révolte actuelle des agriculteurs français et celle des Gilets jaunes. Rappelez-vous comment les Gilets jaunes, ça avait commencé? Ça a commencé essentiellement par la taxe sur les carburants qu'on imposait aux Français. Et c'est la même chose pour les agriculteurs. Ça a commencé la goutte qui a fait déborder le vase. C'était une goutte de pétrole. C'est la fameuse taxe progressive sur le gazole non routier, le GNR, c'est-à-dire le diesel qui sert à l'agriculture, pour lequel le gouvernement a imposé une taxe progressive jusqu'en 2030 aux agriculteurs. Il y a 89% des Français qui soutiennent les agriculteurs. C'est quand même pas rien, là. C'est pas juste des gens qui se plaignent parce qu'ils gagnent pas assez cher. Parce qu'il y a 26% des agriculteurs français présentement qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est quand même pas rien.
Non.
Et puis le but de leur manœuvre est actuellement, aujourd'hui, là, c'est de bloquer Paris de façon le plus efficace possible. C'est beaucoup plus efficace d'intervenir sur les autoroutes franciliennes, c'est-à-dire qui mènent dans la grande région parisienne, que sur les routes de campagne. Donc, à l'heure actuelle, les principaux axes franciliens sont bloqués. Il y en a 7 autoroutes environ. Et puis, moi, j'ai vu ce matin une pancarte, là, qui disait « Notre fin, F-I-N, sera votre fin, F-A-I-M. » Et ça s'en dit long. Maintenant, il faudra attendre cet après-midi à 15h, c'est-à-dire dans une heure à peu près, là, le discours politique générale de Gabriel Attal, l'actuel premier ministre français, qui va peut-être faire des annonces intéressantes. Il en a déjà fait, si vous l'avez vu en fin de semaine, sur une botte de foin, il avait son discours. Il a au moins annoncé, il a au moins promis qu'il va abolir cette fameuse taxe sur le gazole non routier pour les agriculteurs. Moi, il y a une chose qui me fait peur actuelle, c'est l'éventuel blocus de Rungis. C'est pas si vous savez ce que c'est, Rungis?
Non. Non.
Ça vous dit rien. Rungis, c'est une commune au sud de Paris. C'est un marché international. C'est le plus grand marché de produits frais au monde. Je dis bien au monde. Non. Les restaurants s'y approvisionnent tous. Le marché de Rungis, là, c'est un espace de 234 hectares qui abrite à peu près 1200 entreprises puis pas moins de 13 000 employés. Puis en 2022, il y a plus de 6 400 000 entrées ont été comptabilisées sur ce marché-là, puis près de 4 500 nouveaux acheteurs sont allés dans ce marché-là qui est international. Pour la seule année 2022, on a transité 3 millions de tonnes de marchandises, dont 1 800 000 de produits alimentaires qui ont transité par Rungis, ce qui représente un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, ça veut dire à peu près 15 milliards de nos dollars. Et dans le secteur des fruits et légumes, ça occupe la plus grande part. Et à l'heure actuelle, j'ai vu ce matin, il y a des blindés qui sont installés, il y a les CRS qui sont installés à Rungis, et on veut empêcher les tracteurs de rentrer à Rungis. Qu'est-ce qui va se passer si les tracteurs rentrent à Rungis? Moi, j'ai peur que la ville de Paris au complet ne soit plus alimentée. Ça peut affecter tous les restaurants de France. La semaine dernière, les agriculteurs ils arrêtent de temps en temps des camions qui viennent de l'étranger, puis ils vérifient leurs marchandises. Puis un de ces camions remorques-là qui a été arrêté par des agriculteurs contenait des poulets ukrainiens congelés depuis 2 ans.
Hey.
OK? Puis ces poulets-là étaient élevés, comme on appelle, en batterie par un élevage industriel en Ukraine par un oligarque ukrainien, un ami de Zelensky. Un mafieux qui vend ses poulets sur le marché français à 3 euros le poulet. Puis quand les agriculteurs français, les autres, ne peuvent pas vendre leurs poulets en bas de 10 euros. Vous voyez, il y a déjà une iniquité, il y a déjà un manque de loyauté là, entre les pays extérieurs de l'Europe et les pays européens. Autrement dit, les contraintes souvent environnementales font que les agriculteurs ne peuvent pas compétitionner avec le même produit qui vient de l'extérieur puis qui, lui, n'est pas soumis à ces contraintes-là. Et c'est d'autant plus choquant que la France émet même pas 1% des gaz à effet de serre. Et vous avez vu en fin de semaine les deux femmes, et je dirais écolo,
oui,
activistes, qui ont lancé de la soupe sur la Joconde.
Comme si la Joconde avait un lien avec
ben
ça.
Oui.
Bon, ben là, je viens d'apprendre qu'elles ne seront pas condamnées. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce qu'elles ont arrosé une vitre blindée et non pas une œuvre d'art. Et puis moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui étaient présents dans la salle du Louvre où la Joconde est exposée qui ont applaudi à ce geste-là.
Ah oui?
Oui, c'est scandaleux.
Les supporters des dames, ils devaient être préparés.
Donc, la France a été le premier pays à interdire les glyphosates. Rappelez-vous toute la polémique à propos des glyphosates. Puis là, à l'heure actuelle, la communauté européenne rétropédale à propos des glyphosates. Mais ces agriculteurs-là sont soumis à des contraintes, à des règlements, tatillons, par exemple. Ils n'ont même pas le droit de toucher aux branchages qui encombrent les canaux ou les petits ruisseaux qui sont sur leur terre parce qu'il y a des règlements européens qui leur interdisent de le faire. Ils ont des règlements aussi qui concernent les haies qui séparent les champs. Et tout ça, ce sont des règlements non français, mais européens. Moi, il y a deux jeunes politiciens qui m'impressionnent présentement en France. C'est Jordan Bardella, le président de le Rassemblement national, et puis encore plus, Gabriel Attal, le nouveau premier ministre, qui a été très brièvement ministre de l'Éducation, mais qui a fait énormément dans son court mandat. Moi, ces gens-là m'impressionnent beaucoup. Il va falloir les surveiller attentivement dans les mois qui viennent. Un des gros problèmes que les agriculteurs ont à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle sur les négociations de traités de libre-échange qui se font au-dessus de la France, au niveau de Bruxelles, au niveau européen. Et ça, c'est fait par des gens souvent incompétents, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, qui n'ont aucune idée comment faire pousser un épi de maïs ou un champ de fraises. Et puis, ces petits hommes gris-là, disent, par exemple, ils vont dire, par exemple, à l'Allemagne, tu laisses entrer mon maïs arrosé au glyphosate, mais moi, je vais laisser rentrer en contrepartie tes Mercedes puis tes Volkswagen subventionnés. Alors, c'est le genre de traité que ces petits hommes gris-là font à l'heure actuelle au nez et à la barbe des agriculteurs français. Donc, il va falloir aller au-delà de la France pour régler le problème des agriculteurs. Puis, à mon avis, c'est pas demain que ça va se régler. Il y a des traités à l'heure actuelle qui sont en train d'être signés, par exemple, avec le Chili et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je connais bien, je suis allé l'année du fameux tremblement de terre de Christchurch. En Nouvelle-Zélande, la grosse production, là, ce qu'ils exportent, c'est de l'agneau puis c'est du mouton. Il y a 35 millions de moutons pour 5 millions d'habitants. Ça fait 7 moutons par habitant. Puis, quand j'y étais là-bas, j'ai rencontré un biologiste qui m'a dit « La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est encore plus vert que la France. Ils ont développé des fourrages pour nourrir les moutons anti-méthane, c'est-à-dire qu'ils provoquent dans les flatulences des moutons beaucoup moins de méthane que les moutons, mettons, canadiens ou américains. Autrement dit, les moutons néo-zélandais, ils pètent vert. »
Un parallèle à faire avec le Canada, Rénal, est-ce qu'on est prise à peu près avec les mêmes problématiques semblables?
Oui, mais sauf qu'on a des mesures protectionnistes beaucoup plus rigides que celles qui existent en France. À l'heure actuelle, moi, le protectionniste le plus efficace que j'ai vu parmi tous les politiques, ça a été Donald Trump. Donald Trump, je pense qu'il va s'emparer de ce qui se passe présentement en Europe dans sa campagne électorale. Oui. Moi, en fin de semaine, j'avais une discussion très animée avec trois femmes anti-Trumpistes, mais vraiment enragées, là. Et puis, ce qui les choquait, c'est les manières, la grossièreté de Trump. Puis moi, ça me choque pas. C'est sûr que j'approuve pas toutes ses manières, mais je partage son opinion. Un homme politique, un chef d'État, c'est pas élu pour faire des courbettes. C'est élu pour faire la job pour laquelle on l'élit. Donc, Trump a fait la job pour laquelle on l'avait élu. Et il semble que des gens comme Gabriel Attal puis Jordan Bardella veulent faire la même chose. Puis un autre homme politique européen qui m'impressionne beaucoup, qui lui fait la job, c'est Viktor Orban en Hongrie. Puis un qui a fait la job pour le Canada, c'est Stephen Harper. Donc, Donald Trump a mis la hache dans 4000 règlements tatillons inutiles et créateurs de décroissance au niveau de l'EPA. L'EPA, ça, c'est l'Environmental Protection Agency. Il a congédié 800 parasites verts. Ce que j'appelle des parasites verts, c'est des fonctionnaires qui édictent ces règlements-là. La plupart sont des biologistes. Rappelez-vous l'histoire des couleuvres brunes avec l'échangeur Turcot à Montréal.
Oui, on s'en souvient. Absolument,
on a arrêté la construction de l'échangeur pour protéger une douzaine de couleuvres brunes.
Ça a été le cas ici, une démolition de... On voulait démolir une vieille église qui était abandonnée depuis des années. On a fallu attendre parce qu'il y avait des petites chauves-souris qui avaient fait leur nid, là.
Exactement. Donc, ça vous donne un exemple de ce qui peut... comment ça peut dégénérer quand on place l'environnement avant l'être humain. Il faut que toujours l'être humain soit avant. Oui, on protège l'environnement, mais pas à n'importe quel coût. Puis là, on voit que toutes ces normes et règlements, tatillons, ça commence à toucher sévèrement les gens. Et les gens doivent poser des questions, dire non, puis un non ferme, et demander des comptes.
Voilà.
On n'est pas rendu là.
Rénald, merci beaucoup.
On se voit dans deux semaines.
On se reparle dans deux semaines, effectivement. Bonne journée.